Radio Spirale. La constellation du Lynx de Louis Hamelin travaille le matériau historique de la crise d'octobre à partir de la fiction, tisse des liens, reconstitue des faits, en imagine certains, condense les figures historiques. Ce long entretien qu'il donne ici à Elisabeth Nardou-Lafarge nous permet de plonger avec lui dans ce travail de la fiction qui crée des constellations à partir du réel.
Alors bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition des Rencontres du CRILC à la librairie Olivieri. Et je voudrais remercier la librairie Olivieri de nous offrir un lieu de discussion et de lecture paisible, parce qu'ils ne le sont pas tous en ce moment. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le romancier Louis Hamelin, que vous connaissez. Il a imposé une voix forte et singulière dès son premier roman, La Rage, paru en 1989, roman qui lui a valu le prix du gouverneur général. Il a publié ensuite 5 autres romans qui ont précisé le territoire littéraire qui est le sien, Ses spectres agités en 1991, Cowboy en 1992, Betsy Larousse ou l'ineffable Essayité de la loutre en 1994, Le soleil des gouffres en 1996, Le joueur de flûte en 2001. Il a publié aussi un feuilleton, Les étranges et édifiantes aventures d'un oniromane en 1994, un recueil de nouvelles en 2006, Sauvage, et la même année, un essai, L'humain isolé. Il est également, vous le savez, chroniqueur littéraire au journal Le Devoir, où il tient une rubrique de littérature américaine, et il a rassemblé en 1999, dans un recueil qui s'intitule Le Voyage en peau, chronique 1999, ses chroniques de l'hebdomadaire Ici. Mais nous le recevons ce soir pour son 7e roman, La Constellation du Lynx, ce qui prouve que les romans peuvent vivre plus longtemps dans la tête des lecteurs que le temps de promotion des livres. Ce roman a paru donc en 2010 et il a été lauréat, et nous en étions à l'époque réjouis, mais peut-être devrions-nous y repenser aujourd'hui, du prix littéraire des collégiens. Alors, ce roman fictionnalise, et on va voir comment, la crise d'octobre, survenue il y a 41 ans. Et nous allons pouvoir parler d'octobre hors saison, non pas dans le cadre de ces commémorations automnales dont nous avons maintenant l'habitude, mais sur fond d'un printemps qui s'avère un peu plus chaud qu'on ne l'avait prévu. Alors, pour la clarté de la discussion, je rappelle que dans ce roman imposant, au moins en termes de pages, fondé sur une recherche historique dont les principales sources sont indiquées à la fin, un jeune auteur, Sam Nihilo, reprend dans les années 2000 l'enquête sur les événements de 70 que poursuivait à sa façon son ancien professeur à l'UQAM, l'écrivain Chevalier Branqueux, lui-même impliqué dans les événements. Dans ce cadre, donc de la reprise d'une enquête plus tard, se croisent les divers épisodes de la crise d'octobre et les vies de Sam Nihilo et de sa blonde, la comédienne Marie Québec, celle de Chevalier Branqueux et aussi celle de Richard Godefroy, dit God, un ancien felkiste que Sam Nihilo finira par rencontrer. Alors voilà pour mettre la table, mais je propose, pour que nous ayons aussi le texte dans l'oreille, que Louis Hamelin lise un passage particulièrement significatif du roman qu'il a choisi. Donc je propose qu'on l'écoute.
C'est donc ainsi que ça finit, foi de Nihilo. Seul dans un lit qui n'est pas le vôtre, vêtu d'une jaquette découpée dans un tissu mince comme du papier. L'intérieur dévoré par vos propres cellules qui ne vous reconnaissent plus. Et dans le cas de Chevalier, abandonné de tous, hormis la poignée de fidèles, étudiant, écrivain déclassé, poète plus ou moins paumé, quelques profs d'université, tous vivants et pris par des activités de vivants, des horaires chargés, des vices exigeants, des rendez-vous amoureux, des parties de tennis, des fins de semaine dans le Nord, des congrès sur la génétique textuelle de l'œuvre de Joyce à l'Université d'Ithaca et des articles à écrire sur les séjours effectués par Hubert Aquin à la bibliothèque de Buffalo. Autant de défaites, de prétextes pour passer de moins en moins souvent à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame, le cœur ravagé de pitié et d'affection. Le chevet de Chevalier était notablement moins encombré que les tablettes idéologiques de la nation. La maladie fonçait à la vitesse d'un TGV et le début du tunnel arrivait beaucoup trop vite. Presque jusqu'à la fin, il avait continué d'envoyer ses fameuses lettres aux journaux, de travailler au déboulonnage de nos statues, au dégommage de nos grands héros. Ses missives à tête folle chercheuses visaient autant les gros chars des ténors de la gauche-droite nationaliste que le jet privé d'un autre Kid Caïd de Québec Inc. Il n'avait jamais su l'art de se faire des amis, mais ces dernières années, Chevalier avait perfectionné, peut-être jusqu'au point de non-retour, celui de se mettre le monde à dos. Et quand on lui reprochait de se carrer contre son propre camp, il répondait qu'il avait un but, mais pas de camp. S'il s'était contenté de s'asseoir sur ses états de service d'embastillés d'octobre, quitte à faire sa petite poussée d'urticaire patriotique une fois tous les 15 ans, les années de référendum sur la souveraineté, il serait peut-être demeuré fréquentable. Et même sans accepter la version épique, c'est-à-dire héroïque, de la crise d'octobre, celle qui donnait l'impression de faire l'affaire aussi bien des terroristes recyclés en citoyens productifs et éclairés que des flics à la retraite et de leurs maîtres politiques, il eût pu, comme la plupart de ses collègues, se limiter à dénoncer la duplicité de l'État fédéral et la magouille des mesures de guerre au-dessus d'une pinte de bière locale ou d'un verre de chardonnay, avant de passer à un autre sujet. Mais Chevalier exigeait davantage. Il refusait de renoncer à comprendre ce qui s'était vraiment passé. Il m'arrivait de me demander si la grosse Éléonore l'avait regardé comme Marie-Québec m'avait parfois dévisagé au Caganoma ces derniers mois. Pas comme on regarde un fou, pas encore, mais quelqu'un qui, d'une certaine manière, est en train de passer de l'autre côté. Vu de l'extérieur, la frontière était censée conserver un aspect relativement net et étanche, rassurant, comme celle qui sépare les mondes de la réalité et du roman. En fait, il s'agissait moins d'une frontière que d'une zone grise frontalière d'une profondeur et d'une étendue variable. Au-delà se situait un pays parallèle, un monde dans lequel on prenait et perdait pied simultanément, et où les frères Kennedy, Martin Luther King, Elvis, Jimmy Hoffa, Hitler et le petit extraterrestre recueilli à Roswell en 1947 étaient tous vivants et fréquentaient la même usine de clonage aménagée dans le cratère du volcan éteint du Nil du Pacifique Sud. Le problème de Chevalier était devenu le mien. Nous vivions à une époque où l'idée même de conspiration avait été réduite sous les espèces du complot et de la conspirationnite à la permanente caricature d'elle-même, discréditant d'avance toute tentative de réflexion un peu soutenue sur le thème des manipulations politiques. L'incessant bombardement communicationnel de la toile avait gommé les derniers repères permettant de distinguer entre les catégories du délire et du sérieux. Chevalier allait mourir avant d'avoir atteint la terre promise, mais sa tribu s'était de toute manière dispersée d'elle-même et personne ne possédait la moindre assurance que la terre promise existait seulement. Ouais, voilà.
Merci beaucoup. Alors, peut-être que la première question sur laquelle il me semble qu'il faut qu'on vous entende, c'est tout votre travail de recherche, de documentation. Vous avez recueilli des témoignages. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire aussi comment vous voyez, à partir de ce travail, l'état actuel de l'historiographie au Québec sur la crise d'octobre?
Ça a été une grande aventure qui m'a une grande aventure cognitive, je dirais, une grande aventure de la connaissance qui m'a fait découvrir plein de choses et qui m'a fait voir le pays où je vis d'une façon différente. La documentation, ça comprenait à peu près tout ce qui s'est écrit sur le sujet, y compris les petits journaux de l'époque, les numéros du Journal de Montréal et du Montréal Matin qui ont été publiés le 19 octobre 70. Toutes ces choses-là, ça a compris aussi l'épluchage des minutes des procès, parce qu'il y a eu plusieurs procès des felkistes à partir de l'hiver 1971, et des choses comme ça, et aussi, évidemment, la rencontre de ceux qu'on appelle parfois les acteurs de ces événements-là, la rencontre, disons, de tous ceux qui ont accepté de me parler, ce qui en exclut quand même quelques-uns, qui ont fait une sorte de vœu de silence historique, pas besoin de les nommer ici, mais il y en a qui ont quand même, qui refusent systématiquement de revenir sur ces événements-là. Mais j'ai parlé quand même à quelques personnes et aussi à des gens qui avaient fait partie de l'entourage et aussi à des anciens policiers qui ont constitué une source d'informations assez intéressante. Alors, j'en oublie sûrement. Pendant quelques années, j'ai vécu avec cette histoire-là et dans un environnement de papier octobriste qui faisait que parfois je me réveillais la nuit pour aller farfouiller dans des masses de papier, des photocopies, des articles de journaux, des dossiers, des notes, tout ça qui fait qu'on finit par environné par une histoire qui devient presque le tissu de notre propre vie, finalement. Alors, les recherches, c'est ça. L'historiographie actuelle, la crise d'octobre, moi, je pense qu'elle n'est pas encore très solide ni très sérieuse. Un exemple de ça, c'est que celui qui est encore, faute de mieux, à mon avis, considéré comme l'historien officiel de la crise d'octobre, c'est un journaliste, Louis Fournier, qui a sans doute fait un travail qui n'est pas sans qualité, mais son livre « Histoire d'un mouvement clandestin », c'est quand même, ça comporte quand même beaucoup de failles et ça consacre environ une trentaine de pages à la crise d'octobre proprement dite, qui est quand même, pour moi, un événement immense avec des ramifications très étendues. Il n'y a pas encore vraiment d'ouvrage très satisfaisant. Dernièrement, j'ai vu dans le journal qu'il y a un historien, je pense qu'il est historien, Frédéric Bastien, qui s'est penché sur le rapatriement de la Constitution en 1982 et qui a relu ça dans une lumière un peu différente avec le recul, et qui aujourd'hui nous dit que, à son avis, c'était un coup d'État, en fait, le rapatriement de 82. Moi, j'ai hâte que des historiens comme ça retournent voir la crise d'octobre aussi.
Et Louis Fournier, je crois que c'est dans Le Devoir, il a dit, après sans avoir lu votre roman, qu'il valait mieux que vous ayez écrit un roman et que c'est d'ailleurs ce qu'il vous avait conseillé. Et c'est ça, avec toute cette documentation-là, vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y avait largement de quoi faire un essai, mais c'est un roman que vous avez choisi de faire, et pas n'importe quel roman. Ça serait peut-être ma prochaine question. Vous avez mêlé plusieurs esthétiques littéraires. Bon, on l'a dit, vous êtes chroniqueur de littérature américaine, on ne s'étonnera pas que vous ayez installer ces événements et ces personnages dans quelque chose qui ressemble à un polar politique, qui a beaucoup à voir avec le polar politique, mais vous l'avez complexifié avec un dispositif narratologique très complexe, avec un dispositif temporel complexe aussi. On change d'époque, mais on change de point de vue. L'histoire n'est pas toujours vue par la même personne. Vous introduisez du fantastique, il y a un spectre celui de, du ministre assassiné, de, que vous appelez Paul Lavoie, on va revenir sur les noms. Bon, vous installez aussi de façon très, très précise des relais entre les acteurs et les témoins, qui sont des relais générationnels, qui sont aussi parfois sous forme de double. Alors, est-ce que vous pouvez... Pourquoi le roman? Vous allez le redire. Et pourquoi... quel a été le rapport entre ces choix esthétiques et ces montagnes de papier dans lesquelles vous viviez et cette histoire qui vous rattrapait?
Oui, je pense que dans le travail d'un romancier, c'est très difficile de discerner entre, de discerner le, l'éthique, l'esthétique et ce qui relève de la technique et ce qui relève aussi de l'instinct, en fait. Et dans les choix qu'un romancier fait et qui ensuite et qu'il est obligé ensuite d'assumer jusqu'au bout, il y a toutes ces choses-là qui entrent en ligne de compte. À mon avis, il y a une part d'instinct et c'est entre autres mon instinct de romancier qui fait que ce livre-là, j'en ai fait cette matière-là, j'en ai fait un roman. Maintenant, il y a des choses dont je me suis convaincu assez vite en faisant des recherches sur cette histoire-là. Par exemple, qu'il fallait que mon livre, étant donné que j'écrivais sur un mystère, parce que moi j'avais adopté l'idée qu'on ne savait pas encore tout sur la mort de Pierre Laporte, pour l'appeler par son vrai nom, et donc j'écrivais sur un mystère, et donc j'ai très vite compris que mon livre, il fallait qu'il soit construit un peu comme une enquête policière, c'est-à-dire on recherche la clé d'une énigme. Finalement, bon, le spectre est entré en scène après ça, il s'est présenté parce que j'avais besoin d'un contact avec ce personnage-là autour duquel tout le roman tourne finalement, tout le roman tourne autour d'un cadavre finalement, un peu comme un vol de vautours. Une autre chose dont j'ai été rapidement convaincu, c'est que oui, en fait, pourquoi faire un roman? Bon, je parlais d'instinct tantôt et avec le recul, quand je regarde ce livre-là, je suis content d'en avoir fait un roman parce que ça m'a permis de... Je pense pas qu'en faisant un essai, j'aurais pu lui insuffler la même dimension que j'appellerais épique, en fait. Faire entrer de la même manière les immenses territoires de l'Abitibi, du nord du Québec. Finalement, j'ai toujours voulu faire un objet littéraire, en fait. Et donc, les deux balises de mon travail, pour les situer précisément, il y a d'un côté la liberté du romancier. Liberté, mot très important, qui explique un peu la forme, toutes les directions que ça prend, et à l'opposé, la responsabilité. Alors, tout ce travail-là, c'est une espèce de compromis entre ces deux pôles-là, parce que par rapport à l'histoire du Québec, j'avoue que je me suis toujours senti très responsable, c'est-à-dire que j'ai jamais senti que j'avais le droit d'inventer des choses qui concernait la vérité foncière des événements, finalement. Ce que j'ai inventé, c'est beaucoup des éléments pour donner une sorte de ciment aux scènes, pour rendre des choses plus compréhensibles, mais sur la vérité des... Je dirais même pas des faits, mais la vérité de l'histoire, en fait, j'ai toujours voulu essayer de retracer la vérité la plus authentique possible. Et c'est ce qui fait que ce livre-là, pour moi, de mon point de vue, ressemble à un pari un peu fou, parce qu'en fait, j'ai voulu me servir de la fiction pour mieux retrouver la vérité, considérant que la version officielle, la version des historiens, était elle-même une sorte de fiction. On m'a accusé d'avoir réécrit l'histoire, d'avoir joué avec l'histoire. Moi, ce que je dirais, c'est que je ne suis pas le seul, en tout cas, et moi, je l'ai fait dans l'idée d'essayer de retrouver une version plus juste de l'histoire. Et quand je dis ça, je peux donner juste un exemple très, très minuscule et rapide, là. J'ai un ami dans une revue de gauche qui avait à un moment donné reçu une entrevue avec un des felkistes de l'époque et il s'était aperçu qu'à la relecture, le type en question avait fait des corrections sur ses propres propos tenus à un journaliste Et entre autres, il avait gommé une mention de la fameuse maison de Larry Armstrong, comme quoi c'était un lieu de rencontre connu à l'été 70, un lieu de rencontre très fréquenté par les, de rencontre très fréquenté par les, la jeunesse révolutionnaire. Pourquoi il avait gommé ça? À mon avis, parce que s'il mentionnait dans une revue publique que cette maison-là était un lieu de rassemblement, ça rendait plus probable le fait que la police connaissait, ne pouvait pas ne pas connaître ce lieu-là avec la surveillance qu'ils exerçaient à l'époque. Alors, c'est un tout petit exemple d'une réécriture de l'histoire par un des acteurs des événements. Alors, moi, je dois dire que, oui, j'ai rencontré des gens qui ont vécu ces événements-là et qui ont contribué à les façonner. Et j'ai beaucoup aussi épluché la documentation écrite. Et je dois dire qu'il faut se méfier, je pense, des témoins de l'époque qui, 40 ans plus tard, viennent défendre devant l'histoire, devant la postérité, leur rôle dans cette histoire-là, autant du côté des anciens felkistes que du côté des policiers, des politiciens aujourd'hui, parce que chacun a sa propre version à défendre, et ce n'est pas toujours, à mon avis, la version la plus juste.
Alors, vous avez essayé de donner une version juste, c'est-à-dire d'essayer d'être juste avec tous les protagonistes.
Mais j'ai essayé de comprendre comment, globalement, cette histoire-là s'était déroulée. Et ça m'a forcé à élargir un peu le spectre des événements dont il fallait tenir compte. Par exemple, je crois très sérieusement que le fait qu'en pleine crise d'octobre, un jeune felkiste supposément retiré des affaires a été retrouvé pendu dans des circonstances un peu sombres, un peu mystérieuses, dans une prison à Londres, au moment même où deux de ses amis détiennent un diplomate anglais à Montréal. Je pense qu'il y a un lien dans ces histoires-là. Et je dois dire que j'ai jamais prétendu que je comprenais toute cette histoire-là. J'ai essayé d'en offrir une version plus complète que ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, mais j'ai jamais prétendu tout comprendre. Et entre autres, il y a toute, je vous dirais qu'il y a toute une partie jouée par les services secrets de différents pays, parce qu'il y avait les Anglais et les Canadiens, la GRC, et très certainement les Américains aussi. Qui s'est joué sur le terrain, et ça, il y a encore des grands bouts de ça qui m'échappent. J'en ai éclairé des tout petits bouts, mais il y a encore des grands morceaux de ça qui m'échappent. Alors, je pense que c'est des événements qui seront, on parlait du travail des historiens, l'historiographie, c'est des événements qui vont être mieux connus peut-être à l'avenir, mais il y a encore beaucoup de matière qui nous échappe et qui m'échappe à moi aussi.
Donc, au fond, c'est bien le titre qu'on a trouvé, c'est la constellation, c'est comment retracer, élargir et jouer avec une constellation de faits qui tiennent ensemble quelque part, ou en tout cas qui peuvent tenir ensemble.
Relier des points, l'image de la constellation s'est imposée à un certain moment parce que c'était de relier des faits qui, entre autres, n'avaient pas été... par exemple, on mentionnait toujours dans les différentes allusions, évocations de la crise d'octobre, on mentionne parfois les deux felkistes qui ont été découverts dans un camp d'entraînement palestinien en Jordanie par le journaliste Pierre Nadeau à l'été 70, juste avant la crise d'octobre, en août 70. On mentionne ça et ensuite, il n'y a plus vraiment... Ça revient dans les journaux, des fois, il y a des journalistes qui donnaient de l'importance à ces événements-là, mais on considère ça comme une sorte de petite historiette séparée de la grande affaire. Et moi, je pense qu'il y a des liens très, très précis. Quand je parlais du jeu des services secrets tantôt, il y a des liens très précis, entre autres, entre ces types-là et ce qui s'est passé à Montréal deux mois plus tard. Alors, c'est juste un exemple, mais j'ai essayé de... par exemple, si je prends le film Octobre de Pierre Falardeau, qui, pour des raisons qui tiennent aux médias employés, c'est-à-dire le cinéma, entre autres, des raisons techniques, font qu'il a choisi un huis clos. probablement pour, par goût personnel aussi. Je trouve que ça donne un film dramatiquement très, très intéressant, assez fort, mais en même temps, de mon point de vue, si on veut vraiment recréer de façon crédible cette histoire-là, c'est pas satisfaisant en huis clos, c'est pas suffisant parce que ce qui s'est passé au Québec, ça s'inscrit dans une conjoncture beaucoup plus large en fait, qui inclut Cuba, la Jordanie, l'Algérie, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Alors, il faut vraiment essayer d'avoir une vision un peu plus globale de ces événements-là. Et le roman permet ça parce que moi, ben, j'avais pas d'équipe de tournage à déplacer, donc je peux très facilement écrire 3 pages qui se passent dans le désert de Jordanie. Je l'ai fait d'ailleurs. Et le roman, quand je parlais de liberté tantôt, c'est ça aussi, c'est que le roman permet de se déployer comme ça, y compris avec l'imagination qui est un peu l'arme du romancier.
Et vous avez conservé de la constellation aussi un principe malgré tout fragmentaire. Le lien est ténu. Comme romancier, vous n'étiez pas tenu à nous donner la preuve que ce qui s'était passé dans un camp de Jordanie, en Jordanie, avait un rapport direct. Donc, au lecteur aussi de refaire sa constellation, j'imagine.
Ouais, ben, j'ai lu des choses dernièrement de Norman Mailer qui a écrit des gigantesques ouvrages, dont un sur l'affaire Kennedy, sur Lee Harvey Oswald, plus précisément. Et il dit une chose intéressante, c'est un monsieur très, très intelligent qui a beaucoup réfléchi à ces questions politiques et même aux théories du complot, je dirais. Et à propos des preuves, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que une preuve, si on parle d'une preuve technique, une preuve au sens de la loi, on peut toujours trouver un expert qui va venir en cours affirmer exactement le contraire de ce que l'avocat d'avant a affirmé à propos de cette preuve-là. Une preuve, c'est rarement absolu dans ce sens-là. Alors lui, il finit par conclure que ce qu'il faut, ce qu'on doit faire comme intellectuel, c'est finalement se faire une opinion à partir de tous les faits qui sont à notre disposition, très important quand même, à partir de tous les faits qu'on connaît, c'est relier tout ça et se faire une opinion. C'est un peu ça que j'ai fait aussi, c'est-à-dire c'est une interprétation, j'ai jamais prétendu le contraire, une interprétation, mais que j'ai tenté de rendre de la manière le plus juste. J'ai tenté de m'approcher de la vérité, et je le répète encore, je prétends pas la posséder à 100%, loin de là, mais je pense que c'est ce qui s'est passé vraiment doit ressembler à ça plus qu'à beaucoup d'autres versions qui nous ont été proposées.
Mais en même temps, vous avez toujours marqué la distance de la fiction, et notamment dans les noms. Vous avez travaillé sur les noms. On peut lire La Constellation du Lynx comme un roman à clé. C'est une tentation automatique à la lecture. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce jeu sur les noms? Parce que ça, c'est l'indicateur de fiction immédiat. Là.
Oui. Il y a un jeu le jeu d'une certaine liberté, c'est-à-dire que je me suis permis, par exemple, de faire évoluer dans un même livre un premier ministre du Québec fictif qui s'appelle Albert Vézina et un premier ministre du Canada réel qui s'appelle Pierre Trudeau. Alors, je me suis... Et ça, il y a un jeu que, je pense, une sorte de règle du jeu qu'un écrivain a le droit d'imposer, et on espère toujours que le lecteur va suivre, évidemment. Donc, je parlais d'instinct du romancier, mais c'est un peu ça, c'est que, à mon avis, ce que je sentais, c'est que pour m'approprier cette histoire-là, je devais quand même plier ces personnages-là à mon imagination. Comment dire? Ce que je voulais éviter, entre autres, c'est que... parce que comme écrivain, on a parfois des expériences... Il y a des gens qui viennent vous voir dans un salon du livre puis qui disent « Hey, ce personnage-là, c'est moi. » Puis là, tu veux pas trop les décevoir, alors tu n'oses pas dire « Ben non, pas du tout, voyons, monsieur. » Alors, dans un cas comme celui de la Constellation, ben je voulais peut-être éviter que, par exemple, un ancien felkiste vienne me voir après puis me dise « Dans telle scène du procès, là, tu me fais rêver, tu me fais me rappeler que j'ai pogné un achigan sur la rivière à tel l'été d'avant, mais c'est pas vrai, je pêche pas, moi j'ai jamais pêché. » Alors là, j'aurais été obligé de dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est une erreur que j'ai faite. » Alors je voulais pas que ça soit une erreur, je voulais m'approprier ces personnages-là et avoir le droit de leur donner une dimension qui correspond peut-être pas à la réalité, parce que je voulais pas faire une enquête non plus sur quelle est la vie des anciens membres de la cellule Chénier, c'est-à-dire à quoi ils pensent ces gens. Je veux dire, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses sur eux, ça je l'avoue, mais il y avait cette idée quand même de me les approprier par l'imaginaire. Et à partir du moment où cette décision-là a été prise, c'est devenu une sorte de jeu aussi, c'est-à-dire un jeu avec ce qu'on appelle l'onomastique, la science des noms, et ça devient vraiment... je sais que Kundera dit que les romans à clé, c'est pas bon, il faut pas faire des romans à clé, mais en même temps, ça peut devenir un jeu assez passionnant. Pour donner un tout petit exemple, le premier ministre du Québec, vous le savez, s'appelait Robert Bourassa. On l'appelait parfois le petit Robert, qui évoque un livre très connu, en fait, un dictionnaire. Moi, je l'ai appelé Albert Vézina. Or, le petit Albert, c'était aussi un livre qui était assez connu, une espèce d'almanach qui était assez connu, je pense, à la fin du 19e siècle, ou je pourrais pas vous donner de période très précise, mais le petit Albert, c'est aussi un livre. Alors, il y a toutes sortes de petites clés amusantes comme ça, amusante ou moins, mais ça devient un jeu finalement, et ça fait partie pour moi du plaisir d'écrire. Je veux pas dire que je me serais forcément ennuyé en faisant un essai de 600 pages, mais j'aurais peut-être eu un peu moins de plaisir comme écrivain, oui, je pense.
Alors, juste une pour le plaisir. Robert Lemieux, l'avocat des Felkis, vous l'appelez Mario Brien. Alors, ça, j'ai pas trouvé pourquoi. Dites-le nous. Pas trouvé la clé.
À certains moments, c'est effectivement personnel. Il faudrait faire des recherches dans ma vie. C'est parce qu'en Abitibi, j'ai connu un avocat qui s'appelait Lemay, Marc Lemay, qui est devenu d'ailleurs député du Bloc québécois à Ottawa, qui l'est plus maintenant, sans doute, là. Mais Lemay, pourquoi c'est devenu Brien? Attendez, là, dans ce cas-là, j'avoue que il faut que je patine un peu, là. Il y avait un député, le précédent député du Bloc en Abitibi s'appelait Brien, mais il doit y avoir un jeu avec bien Brien, je sais pas. Dans ce cas-là, moi-même, vous voyez, je maîtrise pas complètement mon système. C'est-à-dire, je le maîtrise, mais dans le cas d'un détail comme ça, ça me revient pas immédiatement, là. Oui.
Monsieur a une clé.
Oui.
Albert Brien, détective des Canadiens français. Des petits romans détectives, ça va être insane.
Non, ça fait pas partie de mon système de. Ouais. Ah, ouais.
Un nom, Albert Brien, détective des Canadiens français.
OK. Ah, ça, je savais pas.
Peut-être.
Ouais.
Parce que le mieux, c'est peut-être.
Bien, le mieux, bien.
Ah, ouais. Brillant.
À certains moments, c'est un peu tordu, j'avoue, ouais, là. Mais la plupart... Et donc, évidemment, de changer les noms, tout le monde s'est demandé d'abord si je l'avais fait pour des raisons légales. C'est pas directement ça au départ, mais il est un fait que de parler de gens qui... non seulement sont encore vivants, mais ont aujourd'hui parfois une vie publique ou, disons, semi-publique, ça aurait pu me mettre dans des situations un peu embarrassantes, parce que moi, dans mon interprétation des faits, je leur fais parfois faire des choses qui pourraient être amenées à contester aussi, comme je le sais très bien, c'est-à-dire, dans certains cas... Il y a des scènes qui m'ont été racontées et que j'ai rendues d'une certaine façon, mais je sais que certains d'entre eux seraient pas prêts à accepter cette vision-là, finalement. Alors, il y a tout... Ça a posé des problèmes très... des problèmes concrets. C'est des choix. Finalement, un écrivain vit avec ses choix. À l'époque... j'ai senti que le roman, c'est ce qui me permettait le mieux de recréer cette histoire-là. Mais aujourd'hui, j'ai lu quand même dernièrement surtout des très bons ouvrages, très impressionnants, de ce que les Anglais, les Anglo-Américains appellent la non-fiction. C'est une drôle de façon de définir une chose parce qu'elle n'est pas. Mais... et peut-être que je me dis que j'aurais pu attaquer ça comme une grande non-fiction, finalement. Mm-hmm. Est-ce que le livre aurait eu le même impact? Par contre, j'ai aucun moyen de le savoir, j'en suis pas sûr du tout. Mais c'est sûr que j'ai décidé de le vivre comme romancier, en fait.
Alors, y a les faux noms, bien sûr, mais il y a aussi des vrais noms qu'on attend et qui ne sont pas là. Et il y a un personnage qui est donc le mentor. Vous avez lu tout à l'heure sa solitude à l'hôpital où plus personne ne va le voir, qui est prof à l'UQAM, qui est prof de création. Et Sam Nihilo a été son étudiant. Et il joue quand même dans les événements racontés le rôle de Féron. Il s'appelle Chevalier Branle-Queue et on pense évidemment au Léon de Portal. Tanqueux, qui est le personnage de la Mélanchier, mais ce n'est pas Féron. C'est un personnage composite d'écrivain des années 60, et je pense que pour tous les lecteurs, c'est quand même un nœud de la lecture. Là. Pourquoi ce personnage, qui est plusieurs écrivains à la fois, et puis pourquoi pas Féron ? Tout à l'heure, vous avez employé le mot historiette.
Ouais, ben pour moi... Ce que je voulais, c'est d'abord un personnage d'intellectuel nationaliste des années 60, comme il y en a eu pas mal, qui se fait emprisonner pendant la crise d'octobre, ce que Féron n'a pas été, parce que ça me permettait, à travers Branle-Queue, de rendre compte d'une façon documentaire ce que j'appelle le destin des embastillés d'octobre, ou enfin les fameux emprisonnements arbitraires d'octobre 70. Ça me permettait ça. Mais c'est aussi le lien avec Féron, il va de soi, parce que Branle-Queue, comme Féron, c'est celui qui, dans mon histoire, est le premier à contester la version des autorités, tout ça. Mais en même temps, pour moi, dans l'inspiration du personnage, il y a aussi beaucoup de Miron, parce que Miron a déjà enseigné comme Branle-Queue dans une école primaire de la Rive-Sud, de l'ancienne ville Jacques-Cartier. Il y a du Miron, et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des lecteurs qui ont cru reconnaître d'autres modèles qui ne m'avaient même pas traversé l'esprit, comme, je pense, Victor Lévi-Beaulieu ou enfin des gens comme ça. Il y a d'autres sources du personnage qui sont inconnues du public. Par exemple, un professeur que j'ai eu à l'UQAM à la fin des années 80, et donc qui ont compté pas mal dans la fabrication de ce personnage-là. Donc, ce n'est pas uniquement Féron, mais peut-être que l'image que j'avais en l'écrivant, c'était quand même l'image d'une espèce de grand dégingandé à la Féron, là, avec une petite voix douce qui parle d'une façon toute douce. Mais c'était avant tout un personnage d'intellectuel des années 60 que je voulais créer. Et puis, avoir mis carrément directement Féron dans mon livre, ça m'aurait obligé peut-être à faire des recherches sur la médecine pour pouvoir le montrer en train de recevoir des patients dans sa clinique de la Rive-Sud. Et j'avais déjà tellement de recherches à faire sur d'autres choses à côté que la médecine, je sais pas, j'ai pas voulu embarquer là-dedans. Je trouvais ça plus simple d'en faire un professeur. Il y avait un peu des considérations comme ça, vous voyez.
Alors Féron, justement, parce que son nom n'est pas là, mais il est là, me semble-t-il, constamment, aussi bien au plan de l'anecdote. Vous reprenez, même si on voulait documenter par ailleurs, des épisodes que lui-même signale très tôt, un peu latéraux par rapport aux événements, mais Féron est excessivement bien informé très vite. Vous reprenez, vous donnez à Branle-Queue la méfiance immédiate que Féron a eue à l'égard du récit officiel. Mais sur le plan esthétique, est-ce que vous pouvez, les historiettes, vous faites un roman, mais en maintenant quand même la disjoncture, si vous me passez ce mot, comme on l'a dit tout à l'heure, entre les différents épisodes. Et puis bien sûr, la constellation, ça fait penser au ciel de Québec, et votre lynx, ce lynx qui revient tout le temps, fait penser aussi au renard du Salut de l'Irlande, qui suit les personnages. Enfin, en tout cas, il me semble que Féron est toujours présent, et je voudrais vous entendre sur...
Bien, il y a sans doute des liens dont moi-même, je n'étais pas vraiment conscient, comme ce renard-là, en fait, qui passe effectivement dans un livre de Féron. Par rapport à ce que vous appelez, bon, disjoncture, l'assemblage du livre, il y a une influence assez prépondérante dans la construction du roman qui vient de Mordecai Richler, en fait, d'un roman qui s'appelle Gursky, Solomon Gursky Wazir, en anglais. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la littérature canadienne, mondiale. Et, Et c'est un livre que Richler a essayé d'écrire de façon chronologique, linéaire, et il n'a pas réussi. Et à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il devait complètement démantibuler son histoire pour la reconstituer comme un puzzle, finalement, la reconstituer dans le temps et l'espace, la fragmenter dans le temps et l'espace pour mieux pour mieux être capable de l'embrasser, de la saisir finalement. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec la constellation. Donc cette espèce de grand montage-là, il vient un peu de ça et de la préoccupation qui était la question qui était au départ, comment rendre tout ça, comment rendre compte de tout ça, comment raconter ça finalement. Chez Ferron, c'est sûr que c'est très important avec Vallière. D'ailleurs, j'ai oublié Vallière aussi comme personnage modèle de branle-queue. Il y a un peu de Vallière, entre autres, quand il va rencontrer quelqu'un de la mafia au début de la crise d'octobre. C'est arrivé à Pierre Vallière. Il a été littéralement convoqué par un lieutenant des Cotroni dans un bar de la Rive-Sud. Alors ça, j'ai prêté des expériences à branle-queue qui viennent aussi de Pierre Vallière. Mais... Vallière et Ferron, au départ, Ferron d'abord, ensuite Vallière, c'est les deux grands intellectuels qui ont, par rapport à cette histoire-là, qui ont ouvertement contesté, dans le cas de Ferron, dès 1963, en fait, dès les premières bombes du FLQ, il envoie une lettre au Devoir pour dire que cette drôle d'histoire-là, parce que ces jeunes gens-là avaient été arrêtés par la police, tout ça, et Ferron parle déjà à ce moment-là d'une opération de police un peu suspecte et d'une manipulation. Il y avait déjà l'intuition au départ que cette histoire-là était, que les policiers étaient déjà en plein contrôle de cette histoire-là. Dans la contestation, parce que moi, j'ai voulu faire... j'aurais pas fait un livre sur la crise d'octobre pour reprendre docilement, servilement la version officielle. Il fallait d'abord que je sois convaincu que cette version-là était pas exacte. Et quand je l'ai fait dans le même esprit que Ferron dans ses historiettes, c'est-à-dire contester les vérités des historiens officiels. C'est un peu ce que faisait Ferron, pas seulement à propos de la crise d'octobre, mais à propos de Dollard des Ormeaux, héros national et des choses comme ça, finalement. Et je pense avec Jacques Ferron que l'histoire est une chose trop sérieuse pour être laissée aux historiens, finalement. Il y a un peu... L'histoire, ça appartient aux citoyens aussi. Avant d'être un écrivain, je suis aussi un citoyen, donc c'est une chose qui m'appartient aussi. Alors, j'ai le droit de... J'ai mon mot à dire là-dedans. Ou mes, je ne sais pas combien de 1000 mots, là, mais enfin... Ferron, c'est très important. J'ai l'impression que Ferron, dans cette histoire de la crise d'octobre, Ferron était le mieux placé pour faire le grand roman de la crise d'octobre. Et ce roman-là, il ne l'a pas fait, mais il existe un peu à l'état de fragment dans toute son œuvre, dans ses historiettes, dans ses lettres aux journaux, dans ses lettres à John Grube, un intellectuel torontois avec qui il correspondait. Toutes les fragments de cette histoire-là sont éparpillés chez Ferron, mais je pense qu'au départ, il y a parfois... Ferron, c'est un personnage, comme écrivain, assez brouillon parfois aussi, pas très, il n'y avait pas une méthodologie très, 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 très forte, très, très rigoureuse, mais je lui reconnais une chose fondamentale dans Octobre, c'est d'avoir, dès le début, eu la fulgurante intuition que ces événements-là étaient... il y avait l'histoire et il y avait la sous-histoire. Il y avait une histoire secrète qui n'était pas nécessairement pour consommation publique. Et c'est cette chose-là qui l'intéressait et qui m'a intéressé à mon tour.
Oui, on a un peu... en tout cas, à la lecture, on a un peu le sentiment que c'est le projet de Ferron qui est comme repris et porté. Sans doute pas où Ferron voulait l'amener, mais... rassembler. Le temps tourne et pour finir, il me semble qu'il faut qu'on parle de mémoire parce que vous disiez en commençant que l'historiographie de la crise d'octobre était dans une certaine mesure encore à faire. Donc, en lieu et place de cette historiographie encore à faire, on a des écrits journalistiques, on a des films, on a votre roman et il y a une manière de se souvenir d'octobre. Alors, il y a du refoulement, en particulier celui de la violence. Votre roman tourne autour de la scène de la mort du ministre assassiné de Paul Lavoie-Pierre Laporte. Dans le roman, vous la racontez comme un accident. ce qu'elle a peut-être eu, peut-être même vraisemblablement été, mais vous déplacez la violence dans d'autres scènes, celle d'ouverture du roman qui est la mort du personnage qui joue le rôle de Michel Vigée, qui est un assassinat, et aussi dans la très belle scène de l'étranglement d'un lynx. Hein. C'est dans l'enfance de Godefroy en Abitibi, le père de Godefroy l'amène voir un trappeur amérindien qui a un lynx prisonnier, hein, attaché, et personne, il essaye de leur donner le lynx et le père de Godefroy ne le veut pas, et le trappeur l'étrangle. Et cet étranglement-là est longuement décrit. Donc, il y a ça. Il y a d'abord le refoulé que vous avez mis en scène. Et puis, l'autre question, pour moi, qui touche aussi à comment votre roman peut intervenir sur la mémoire d'octobre, c'est la tension entre une certaine atténuation qui passe souvent par le grotesque. Là, je parle du discours en général. Oh, c'est une erreur. La police faisait des erreurs grossières dont on aime bien rire. Et les Felkist eux-mêmes n'étaient pas très sérieux. On atténue de cette manière-là. Leur lecture leur montait à la tête, etc. Le tragique. Il y a cette tension-là. Or, vous aussi, dans le roman, cette tension, vous la réactivez. La scène, par exemple, du ministre, du spectre du ministre, qui vient visiter Sam Nihilo régulièrement, de façon assez tragique, pendant ses premières apparitions, puisqu'il demande qu'on l'amène à l'hôpital, et qui, à la fin, a un collier de fleurs autour du cou pour cacher sa cicatrice, et qui dit que là, il s'en va jouer au golf dans le sud. Donc, un décrochement d'humour. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour. On rit beaucoup dans ce roman. Donc, sur ces deux questions, refoule-t-on quelque chose et quoi? Et qu'est-ce qu'on atténue? Y a-t-il de l'autodérision? Et pourquoi y en aurait-il? Vous, comment vous voyez ça, à la fois dans votre roman, mais aussi dans la mémoire que nous avons des événements?
Ouais, disons que le spectre devenu un ange de l'otage à la fin qui part jouer au golf au Mexique, ça, c'est une chose que j'aurais pas pu mettre dans un essai sérieux, je pense. Mais moi, ce qui me frappait à propos de cette histoire-là, c'est que la mort... quand j'en parle comme ça, j'y redonne son vrai nom dans l'histoire. La mort de la porte avait jamais été vraiment racontée. Elle l'a pas été dans le livre de Simard. Elle a été... étonnamment, dans le film de Falardeau, elle a été laissée dans hors champ, finalement. Comme écrivain, on a un peu l'impression qu'une chose n'existe pas tant qu'elle n'a pas été vraiment racontée. Et c'est peut-être un des moteurs de ce projet-là au départ. Pourquoi il y avait comme un corps, mais il y avait une mort manquante quelque part. Pourquoi on n'a jamais raconté précisément, même si c'est douloureux, même si c'est sous la forme cathartique, pourquoi on n'a pas raconté cette mort-là? Et donc, il y avait ça. Par rapport à la transmission de la mémoire, moi, je me souviens à l'époque, quand je vivais en Abitibi et j'avais déjà commencé à travailler sur cette histoire-là, et j'avais parlé de ça à un vieux militant, et en jasant comme ça, je lui avais dit, à un moment donné, la police connaissait la maison où il était, l'otage, c'est évident, et il m'avait dit avec une sorte d'assurance, non, c'est pas vrai, il connaissait pas la maison. Je me demandais, mais d'où vient cette assurance-là? C'est un militant qui était en Abitibi en 70, qui avait pas été mêlé du tout aux événements. Comment, donc, il y avait cette espèce de tabou, en fait, où les gens... avaient leur propre certitude à propos de la crise d'octobre, mais parfois de manière pas très fondée. En 90, il y a eu un dossier dans la presse après 20 ans, finalement, les 20 ans de la crise d'octobre. Et moi, je me suis trouvé à le lire quelques années plus tard, et ce qui me frappait énormément, c'était à quel point la fameuse version officielle triomphait sur tous les plans, dans tous les articles. Il n'y avait absolument aucune voix discordante. Il n'y avait pas la moindre petite voix pour dire « Êtes-vous vraiment sûr que ça s'est passé comme ça? Puis telle affaire, ça se peut pas, puis tout ça. » C'était la belle unanimité avec Marc Lalonde, le bras droit de Trudeau, qui qui revenait avec ses certitudes, et d'un autre côté, les anciens terroristes eux-mêmes qui parlaient pas trop fort, mais qui finalement disaient rien de nouveau. Il y avait cette espèce d'unanimité qui, moi, m'avait beaucoup dérangé alors que j'avais déjà commencé à lire Ferron, entre autres, sur Octobre. Et donc, ça aussi, c'est des moteurs... comme de voir dans un reportage à Radio-Canada, à un moment donné, un prof d'histoire au Cégep qui enseignait le film de Pierre Falardeau, Octobre, comme de l'histoire. C'est comme ça que c'était arrivé. On pouvait ne pas être d'accord, ce qui était mon cas. Alors, voilà. Et donc, tout ça, ça a fait que je me suis dit que j'avais... j'avais peut-être des choses à dire sur ce qui doit nous rester de cette histoire-là, ce qui doit être, puisqu'on parle de mémoire et tout ça, ben, je pense que ça peut être un des rôles de la littérature de faire revivre notre histoire et puis d'essayer de lui redonner ses vraies dimensions, si on pense que cette contestation-là est juste au fond, ce qui est mon cas. Alors, mais pour le tragique de l'histoire, c'est le tragique, il est présent dans mon livre parce que je me suis jamais non plus permis d'oublier que c'est la mort d'un homme finalement. Et j'ai même été assez provocateur à un moment donné pour écrire dans une chronique que le vrai héros de la crise d'octobre, c'était Pierre Laporte, ce qui m'a pas fait des amis dans la gauche militante, la gauche nationaliste militante, mais d'une certaine manière, je le pense vraiment, c'est que avec tous les défauts, ces défauts qui tiennent en bonne partie à la politique de l'époque, à la manière dont la politique était faite à l'époque et qui a pas changé tant que ça aujourd'hui, je pense que Laporte, dans cette histoire-là, a été une sorte de... Il a essayé beaucoup plus qu'on pense de s'en tirer, de tromper ses ravisseurs et tout ça. Et moi, je pense que c'est donc la dimension tragique du livre, c'est sûr qu'elle est là-dedans aussi. Maintenant, le récit, moi, c'est la manière dont je présente sa mort, c'est à cette conclusion-là que j'en suis venu. Qui m'éloigne radicalement, par exemple, du tandem Simard-Falardeau. Vous savez que le film de Falardeau est basé sur le récit de Francis Simard. Moi, j'appelle ça la version Simard-Falardeau, qui, à peu près aujourd'hui, par rapport à l'affaire Laporte, tient lieu de version officielle, de vérité officielle. Et moi, je pense qu'ils ont revendiqué cette mort-là comme exécution pour des raisons... idéologique, c'est-à-dire pour avoir une posture devant l'histoire, parce que ça, on a l'air trop fou de dire finalement la situation nous a échappé, puis on l'a étranglé par accident. Mais c'est une sorte, c'est peut-être pas juste de dire que c'est un accident, mais c'est une sorte de dérapage finalement, cette mort-là. Ça, c'est un peu... j'aurais pu arriver à des conclusions différentes parce que quand j'ai commencé le livre, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer dans cette maison-là. C'est parce que j'ai commencé à écrire alors que j'avais pas terminé mes recherches, tout ça, puis c'était un processus parallèle un peu. Donc, je savais pas comment ça allait finir quand j'ai commencé, mais la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, moi, c'est ça.
L'idée qu'il y a eu manipulation pour dire le moins, est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui un peu admise?
Je pense que ça commence sans doute. Il faudrait faire des sondages, ça serait intéressant. Je sais qu'il y a 80% des Américains qui croient que la mort de Kennedy est le résultat d'un complot. La crise d'octobre, je pense que il y a peut-être... est-ce que c'est un consensus? Je ne sais pas, mais peut-être que de plus en plus, oui, mais c'est encore teinté idéologiquement, c'est-à-dire que selon qu'on est de gauche ou de droite, on va avoir des opinions. Et même mon livre a été reçu, avant que d'être reçu comme un objet littéraire, a été reçu idéologiquement finalement, c'est-à-dire comme un ouvrage chargé politiquement, contre lequel il fallait se positionner pour ou contre. Alors il y a ça encore dans notre rapport à la crise d'octobre. Mais oui, peut-être que maintenant on est plus conscient que... Mais moi, ce que j'ai essayé d'éclairer, c'est le mécanisme de la chose quand même. Par exemple, ma conviction que la maison était surveillée par la police, tout ça, ben moi, je pense vraiment que c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, j'ai trouvé des choses qui m'ont amené à penser ça et à le présenter comme ça. Et si c'est vrai, c'est un immense scandale politique, évidemment, parce qu'on a laissé mourir quelqu'un alors qu'on aurait pu tenter de le secourir. Alors, mais les gens, c'est sûr, quand on leur parle de la crise d'octobre, ah oui, ils ont envoyé l'armée pour écraser le mouvement alors qu'il n'était pas... Mais il faut comprendre, à mon avis, comment ça a fonctionné. Ça, c'est comme le côté, le caractère de à mon avis, de gigantesques provocations organisées. Il faut comprendre comment ça a fonctionné. Les enlèvements sont le prétexte de l'envoi de l'armée, alors qu'on a voulu présenter... on a voulu présenter ça comme le contraire, c'est-à-dire que l'armée arrive en réaction aux enlèvements, mais c'est le véritable ordre de cause à effet, pour moi, est inversé, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est une... on a créé un prétexte pour... l'armée avait déjà commencé à se déplacer avant même... quelques jours après le premier enlèvement, alors qu'il n'y avait pas encore de crise officiellement au Québec. Bon, on pourrait en parler très longtemps, là, mais bref.
Bien, c'est aussi un peu ce que vous dites dans la préface que vous signez pour la réédition des Procédés 5, la même année, là, en 2010, la même année que votre roman. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais pas tout seul. Donc, je pense qu'on peut réserver le moment qui suit aux questions à Louis Hamelin. Alors, allez-y, monsieur.
Que pour Ferron, il y avait une histoire en dessous de l'histoire. Ça fait allusion à quoi, ça?
Dans le cas de Ferron, ça fait allusion à plein de choses. Quand on épluche un peu sa correspondance de l'époque, Ferron était... il vivait sur la rive sud, dans ce qu'on appelait autrefois Ville-Jacques-Cartier, mais qui avait été fusionné avec... qui avait été avalé par Longueuil en 69, je pense. Mais il était assis un peu au cœur de ces événements-là, parce que Ville-Jacques-Cartier, c'est non seulement le berceau du FLQ, c'est la patrie de Vallière, des Frères Rose, de Francis Simard, de toute ce gang-là. C'est là qu'ils ont kidnappé et détenu leur otage. Mais il y a toute une faune autour de ça aussi, qui grenouille autour de ça, des gens autour qui sont parfois un peu louches. L'ancien propriétaire de la maison du pêcheur à Percé, dont Ferron était convaincu qu'il était un indicateur de police et qui était assez proche de la cellule Chénier, l'ancien policier. Bon, tu sais, l'histoire officielle a retenu les quatre gars qui ont kidnappé Pierre Laporte et les cinq qui ont kidnappé l'Anglais. Il y a toute une faune autour de ça que Ferron connaissait, des gens à qui il parlait, il y avait des antennes, Ferron. Alors, et donc, dans sa correspondance, quand je parlais de sous-histoire, c'est qu'il y a toute cette... moi, ça rejoint une de mes convictions, c'est-à-dire que dans une histoire comme celle-là, cette histoire-là, ce genre d'histoire-là, en fait, repose sur une histoire secrète, exactement comme une maison repose sur un sous-bassement invisible. Je parlais tantôt de jeux d'affrontement, même, je dirais, de différents services secrets sur le terrain. Et il y a eu ça aussi, et ça fait partie de cette histoire-là qui reste dans l'ombre. Mais Ferron a beaucoup spéculé sur ces choses-là, avec parfois... parfois publiquement, dans ses historiettes qui étaient publiées dans le Canada français à l'époque, le journal Le Canada français, et dans ses lettres au devoir, tout ça. Et parfois, il s'est fait dire « Mon vieux, tu dérailles, t'as trop d'imagination, on sait bien, c'est un fantaisiste, c'est lui qui a créé le Parti Rhinocéros, c'est un fantaisiste, c'est pas sérieux, finalement. » Il s'est fait beaucoup, comme ça, rabrouer. Mais il connaissait beaucoup de choses qui font pas nécessairement partie de la version connue et publique de cette histoire-là. Si on parle de, sans rentrer dans les détails, des différences entre les deux cellules, celle qui était à Montréal-Nord et celle qui était sur la Rive-Sud. Celle qui était sur la Rive-Sud, au fil des deux années précédentes, ils étaient plus durs et ils fréquentaient des gens aussi qui étaient plus durs. Il y avait dans leur entourage, il y avait des bombes. Ça avait toujours joué dur sur la Rive-Sud. C'est pour ça que quand René Lévesque s'est présenté dans le comté de Taillon, je ne me souviens pas en quelle année, mais il a pris Johnny Rougeau, le lutteur, comme garde du corps. Parce qu'au début des années 70, ça jouait encore dur sur la Rive-Sud. Ferron a parlé de ça aussi dans les élections municipales à l'époque du maire Rémillard. Il y avait du bâton de baseball qui se promenait. Puis dans les valises des autos. Puis alors, c'est tout ça. Quand je parle de sous-histoire, c'est que... et d'ailleurs, dans mon roman, il y a une histoire qui se passe, d'élection municipale qui se passe à Ville-Jacques-Cartier et que j'ai puisé chez Ferron, où il y a comme ça une espèce de mise en scène de prétexte à déclarer la loi de l'émeute. Ça s'est vraiment passé en 62, en tout cas l'année exacte m'échappe, là, mais où finalement on avait orchestré des violences simplement pour pouvoir déclarer la loi de l'émeute et intimider l'autre camp. Et ça, Ferron connaissait toutes ces histoires-là et c'est inséparable pour moi de son interprétation de la crise d'octobre. C'est qu'il savait comment ça fonctionnait, la politique. Il savait que les politiciens, parfois, étaient capables de jouer des jeux comme ça, des jeux dangereux comme ça. Il y avait toute cette... Moi, j'ai appelé ça la sous-histoire. Enfin, c'est l'histoire secrète, là.
Monsieur? Excusez-moi, monsieur, je crois que pour l'enregistrement, ce serait mieux que vous vous approchiez du micro.
Voilà. Merci. Alors, votre hypothèse, c'est que la police connaissait la maison de la rue Armstrong est intéressante, mais les gens, les activistes qui étaient dans la maison, le savaient aussi, étaient les premiers à le savoir, pourquoi s'y sont-ils rendus alors? Comment êtes-vous capable de... Bon, je ne vous demande pas la réponse finale, là, mais de quelle façon êtes-vous capable de faire l'acrobatie, de faire un lien logique entre les deux?
Moi, je ne pense pas qu'il le savait de façon certaine. Il paraît que, entre autres, Paul Rose, il s'en doutait en septembre 70, au point que Paul Rose avait parlé de brûler cette maison-là parce qu'elle était... entre guillemets, brûlés, c'est-à-dire connus de la police. Mais je ne pense pas qu'ils étaient certains de ça. Mais ça reste, à mon avis, une grande imprudence en octobre de cet automne-là d'avoir choisi d'amener un otage à cet endroit-là. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que c'était la seule planque qui leur restait. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le FLQ était presque à terre en octobre 70. Ils avaient un premier réseau qui avait été démantelé au mois de juin, leurs complices, leurs amis, qui étaient prêts à passer à l'action, à kidnapper un consul américain, et qui, eux, avaient été « bostés », comme on dit en bon québécois. Et le réseau, à partir de là, est pratiquement tombé à terre. Et de l'avis de certains, ils n'étaient pas du tout prêts à passer aux actes en octobre. Sauf qu'il y en a d'autres qui avaient un frère en prison et puis qui ont fait pression pour bouger. Mais au départ, ils voulaient garder les otages dans une ferme qu'ils avaient à Saint-Anne-de-la-Rochelle, un très beau coin de campagne où je passe de temps en temps. Et là aussi, ils ont été découverts par la police. Ils ont été obligés d'abandonner cette planque-là. La fameuse maison, le fameux bungalow de la rue Armstrong, c'est leur dernière planque. Ils n'ont pas d'autre endroit. Et ils décident que là, ils n'ont pas le choix, c'est pas le temps de reculer, on y va, et donc c'est la seule... Et moi, je pense qu'ils sur le coup, ils se convainquent que non, la police, finalement, ils doivent pas, mais ils se sont peut-être trompés. Mais non, je pense pas qu'ils savaient, mais en tout cas, il y a toutes sortes d'anecdotes là qui m'ont été racontées, comme quoi, quand ils faisaient des réunions là, quand même, il y en a qui avaient des jumelles, puis qui checkaient la police, puis ils pouvaient pas ne pas sentir quand même qu'ils étaient un peu surveillés dans... ils ont quand même pris la décision de manière imprudente, à mon avis. Moi, les gens ceux qui étaient assignés qui ont fait la surveillance de James Cross avant de l'enlever, ils racontent qu'ils se sentaient surveillés eux-mêmes au moment où ils surveillaient leur futur otage. Enfin, tu sais, il y avait comme une sorte de je pense qu'ils pouvaient avoir pas mal de soupçons quand même. Ouais.
Ça peut
Ben, quand le journaliste Guy Gendron de Radio-Canada, en octobre 70, en octobre 2010, pardon, 40 ans plus tard, à un moment donné, a fait des reportages et entre autres, à un moment donné, il y a eu devant lui quelqu'un que je considère vraiment comme un ripoux, là, c'est-à-dire Julien Giguère, c'était l'ancien patron de l'escouade antiterroriste. C'est lui qui a dit, d'ailleurs, en plein écran de Radio-Canada, qu'il considérait que Pauline Julien, à l'époque, était une criminelle parce qu'elle avait des opinions indépendantistes publiques et c'était une criminelle, tout ça. Mais c'est un type assez dégueulasse. Mais bref, Gendron de Radio-Canada l'avait devant lui et à un moment donné, il lui demande « Vous n'avez pas tous les gens que vous avez arrêtés en octobre 70, les fameux 500 noms, là, c'était pas les felkistes les plus connus. Il y a des felkistes connus que vous avez laissés courir. » Et là, on voit la face du gars changer. Et moi, j'étais devant ma TV, puis je me dis « Bon, là, il le tient. » Et finalement, le type, il a comme grommelé quelque chose à propos de « Ah oh oui, ben là, il y en a qu'on laissait aller pour les filets, pour les filatures. On voyait des noms sur la liste, puis on disait « Lui, on va le laisser aller pour filer, tout ça. » Il s'en est sorti comme ça, et Gendron a comme pas poussé. Et moi, j'aurais voulu qu'il lui demande « Mais les roses, vous les connaissiez aussi, et vous saviez très probablement où ils habitaient. » Il y a beaucoup de policiers des policiers qui l'ont dit après ça. On connaissait ces gars-là, tu sais, ils n'étaient pas durs à trouver. » Donc, j'aurais aimé ça qu'ils lui demandent pourquoi eux, vous les avez laissés courir aussi. Vous en avez arrêté 500, mais comme par hasard, les kidnappeurs, vous les avez laissés courir. Bizarre. Alors, j'étais un peu frustré devant ma télévision. Ben, peut-être coupé au montage, oui, oui. Mais moi, je pense qu'il y avait une faille là, que le journaliste, que moi, j'aurais essayé d'exploiter, en tout cas. Ouais.
Monsieur a une autre question?
Oui. Les noms imaginaires de tantôt, est-ce que c'est juste Trudeau qui garde son nom réel là-dedans?
Presque. Trudeau, Bourgault. À un moment donné, je raconte la manif, de la fameuse manif de la Saint-Jean de 68, où ça a joué de la batraque pas mal fort. Puis là-dedans, je présente ça un peu comme un affrontement entre Bourgault et Trudeau, qui effectivement se sont pratiquement fait face... Trudeau du haut de la tribune et Bourgault avec les manifestants en bas. Mais ceux-là, oui, je leur ai gardé. Encore là, c'est un choix qui peut presque paraître fantaisiste, mais ces hommes politiques-là, je ne sais pas, pour moi, ils sont figés. Leur rôle n'était pas remis en question. Ils sont comme figés dans l'histoire. Alors, je les ai gardés comme ça. Alors que dès qu'on parle, déjà quand on parle du rôle de Robert Bourassa, par exemple, dans ces événements-là, pour moi, il n'est pas encore figé dans l'histoire. Son rôle est encore matière à débat et tout ça. Et donc, j'ai voulu modifier son nom pour en faire une créature romanesque encore là. Okay.
Ma perception, c'était que... Je pensais que c'était juste Trudeau, mais... OK, Bourgault...
Mais il n'y en a pas beaucoup.
Ouais. C'est déjà eux autres des personnages. C'est quand même des personnages... En tout cas, de mon point de vue, dans toute cette histoire-là, c'est quand même deux personnages très forts. Si j'étais romancier, je ferais des portraits de ces deux-là comme personnages. C'est comme si... Si on voit ça par rapport à ce que tu appelais la non-fiction, c'est peut-être eux autres les vrais personnages là-dedans, tandis que les autres, c'est des figurants, je ne sais pas...
Par rapport à la...
Le parti pris de... Qu'est-ce qu'il y a dans...
Ouais. Il y a un troisième homme politique aussi à qui j'ai gardé sa véritable identité, c'est René Lévesque, qu'on voit passer à un moment donné à Percé, sur le quai de Percé. Parce qu'effectivement, pendant l'été 69, l'été chaud de la maison du pêcheur à Percé, Lévesque est passé par là à un moment donné. Puis ça, bon, c'est une anecdote que j'ai inclue dans mon roman, incluse. Mais sinon, pourquoi... Par rapport à la crise d'octobre proprement dite, Trudeau est quand même... il a joué un rôle important, ça, j'en doute pas, mais il est quand même, au moment des faits, il est quand même en retrait pas mal. Il est à Ottawa, et puis s'il tire les ficelles, c'est de très loin. Et Bourgault, lui, n'était pas directement impliqué dans tout ça. Ce n'est pas les vrais protagonistes pour moi. Là. C'est quand même... Tant qu'à ça, le premier ministre du Québec était beaucoup impliqué de beaucoup plus près et son fameux mentor, là, le colonel Paul Desrochers, que j'ai rebaptisé le colonel Lapierre, mais les gens qui ont bien connu c'est le pouvoir à Québec à cette époque-là, le Desrochers, ça leur dit quelque chose. C'était le grand Manitou, c'était un colonel de l'armée de réserve qui venait du monde du renseignement militaire, en fait, et c'est lui qui avait pas mal la main haute sur beaucoup de choses à Québec, sur le Parti libéral, en fait. Alors ça, c'est quand même une crise... très québécoise, quelque part. Il y en a même, les anglophones du gouvernement Trudeau voyaient ça un peu comme un règlement de compte entre Québécois, Trudeau, Lalonde, Jean Marchand d'un bord, puis l'évêque Bourgault, puis les Felkistes de l'autre. Il y a du point de vue du Canada anglais, c'est presque un règlement de compte québécois, cette histoire-là.
Une guerre civile.
Ça n'a pas été jusque-là, mais Jean Marchand a eu peur. Il paraît là, que les 3000 Felkistes
Et pour ramener un peu les choses du côté de la littérature, je dirais que c'est aussi, dans le roman en tout cas, une guerre des récits. C'est-à-dire, c'est le récit de l'un contre le récit de l'autre.
Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je me suis amusé avec les jeunes gens qui, 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, en fait, dans mon livre Enquête sur ces événements-là, c'est comme par hasard des étudiants en littérature. C'est-à-dire, il y a Samuel Nihilot, puis il y a son collègue Fred Falardeau. Et à un certain moment, il y en a un des deux, Falardeau, qui dit, dans le fond, il parle des services secrets parce que lui, il spécialise, il concentre ses recherches sur le monde des services secrets. Et il dit à un moment donné, dans le fond, ces gens-là, ils font un peu la même chose que nous autres. Ils inventent des histoires. C'est leur métier, en fait. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de ça dans la manière dont les services secrets sont amenés à jouer leur partie dans les médias, en fait, en contrôlant d'une certaine manière certains journalistes, disons, pas des médias, des journalistes, mettons. Parce que quand on parlait d'historiographie tantôt, cette histoire-là n'est pas encore entrée dans l'histoire au sens figé du terme, c'est-à-dire qu'elle est encore matière à débat pour moi. Mais non, mais il n'y a pas d'historien sérieux qui a Jacques Lacourcière, dans son Histoire populaire, quand il arrive à la crise d'octobre et quand il arrive à la mort de Pierre Laporte, il y a une sorte de gêne et de malaise et il finit par évoquer l'hypothèse de Vallière et il passe à autre chose. Il y a comme encore une sorte de c'est vrai quand je dis que ça n'avait pas été raconté encore, c'est-à-dire la mort, en fait, de cet homme-là. Non, c'est pas si simple. C'est pas comme.
Mais si je peux me permettre, est-ce que c'est pas le cas de beaucoup d'autres événements? C'est-à-dire qu'il y a quand vous dites raconter les choses qui se sont passées, point. Mais où, quand fait-on ça? Je veux dire, je pense à la guerre d'Algérie pour l'historiographie française. Il me semble que ce sont des récits concurrents, sinon conflictuels, qui apparaissent. Alors. Kennedy, l'affaire Kennedy, on n'a pas
raconté. Un romancier américain qui décide aujourd'hui de d'écrire l'histoire de l'attentat sur Kennedy, c'est pas simple à écrire non plus, c'est très compliqué parce qu'il est obligé de tenir compte de toutes les spéculations qu'il y a autour de cette histoire-là. Le tabou, pour moi, il est énorme parce que moi, en fait, je prétends que les autorités, connaissant ces lapins-là, les ont laissés filer pour pouvoir mieux les frapper plus tard, mais après qu'ils aient provoqué une crise, en fait. Et le tabou, il est aussi du point de vue des anciens acteurs disons, de la gauche nationaliste, parce que eux, souvent, ont encore une vision que j'appelle héroïque de ces événements-là, c'est-à-dire on est passé à l'action, on a réussi à faire réagir le pouvoir au point qu'ils nous ont envoyé l'armée tellement qu'ils nous prenaient au sérieux. Ils ont encore presque ils en font presque un motif de gloire, de fierté, alors que moi, hélas, je prétends qu'ils ont été instrumentalisés, en fait, par la répression, par les forces de la répression. Et ça, ça fait pas encore, comme je l'ai bien constaté, ça fait pas encore partie de l'histoire officielle. Alors le tabou, il est là, entre autres, c'est sûr. Il y a des très mauvais romans qui ont été écrits sur la crise d'octobre qui ont repris la version officielle. Il y en a un de Pierre Turgeon qui s'intitule Un dernier blues pour octobre, je pense. C'est pas très bon, pas nécessairement parce qu'il reprend la version officielle, mais je pense que ça aide pas, mais c'est un peu ennuyant. Mais Quand on pense que la seule version qui nous soit écrite, qui nous soit venue d'un de ces acteurs-là, un ancien felkiste, Francis Simard, est vraiment pleine de trous, c'est-à-dire qu'on peut lire ça et s'amuser à relever toutes les contradictions, les incohérences, les silences malaisés, tout ça. Alors, moi, je prétends, oui, qu'il y a encore une sorte de tabou sur cette histoire-là.
Il y a aussi dans ce roman, on n'a pas eu le temps d'en parler, et puis forcément, c'est la crise elle-même qui a monopolisé beaucoup la discussion, mais il y a aussi des passages assez beaux sur les descriptions de l'Abitibi, les évocations de l'Abitibi, où là, qu'on retrouve ailleurs cette capacité à décrire les territoires, les paysages, on la retrouve ailleurs, bien sûr, dans votre œuvre, dans les autres romans, mais là, on l'a très fort. Et il y a aussi une dimension sociologique qui me semble qui est très intéressante parce que justement elle est romanesque pour comprendre la socialité de ces années-là, en tout cas pour penser qu'on en comprend quelque chose. Et je pense au festival de Manceau que vous décrivez, où vous décrivez Godefroy qui est là, au début ça va, après ça va plus, il veut plus rester là, enfin qui se radicalise à ce moment-là, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, et qui au milieu de cette drôle de chose qu'a été ce festival-là, mais qui est bien exemplaire d'une certaine socialité de cette époque-là, les voyages aussi, quand ils partent en Abitibi, là, la route, et bien sûr la maison du pêcheur, où se retrouvent, où les rencontres sont quand même très improbables et font certainement beaucoup l'affaire de la police et facilitent beaucoup les choses à la police parce qu'on est quand même très très vite amis quand on se rencontre là. Alors il y a des moments comme ça que, à ma connaissance, on ne trouve pas très souvent dans le roman sur les années 60. Et ce récit-là, de manière évidemment fragmentaire, il me semble qu'on l'a beaucoup, que si on veut avoir une idée qui ne soit pas non plus ni une caricature, ni une espèce de confession, de repenti sur ces années-là, à cet égard, le roman est très, très intéressant.
Mais la présence de l'Abitibi, de la forêt, tout ça, au départ, c'était presque arbitraire. C'est parce que je me suis trouvé à m'exiler là-bas et j'ai commencé à travailler sur cette histoire-là. Ces deux événements-là sont indépendants l'un de l'autre au départ. En même temps, après ça, on se rend compte, et je me suis rendu compte qu'il y a deux des felkistes qui ont vécu en Abitibi dans leur enfance. Il y avait le fameux Marc Carbonneau aussi qui a vécu sur une ferme en Abitibi. Et plus que ça, il y a, ça m'a et bon, et après ça, j'ai rencontré les lynx, qui pour moi est devenu une sorte d'incarnation de totémique du mystère finalement. Et donc, et ça tombait bien parce que je voulais raconter un mystère. Mais de façon plus générale, l'Abitibi, ça m'a permis d'inscrire cette histoire-là dans un territoire mythique plus large et qui finalement couvre toute la deuxième moitié du 20e siècle au Québec. C'est-à-dire que un de ces felkistes-là, finalement, il se fait envoyer avec ses parents. C'est-à-dire que ses parents s'en vont coloniser une terre en Abitibi en 1947, à 100 km au nord de Rouyn-Noranda. Et il se plante, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui était fait pour la colonisation. C'était dur un peu comme mode de vie. Et comme pas mal, comme peut-être la moitié de ces gens-là, ils ont reflué vers le sud du Québec et ils sont allés fonder ce fameux bidonville ouvrier de Ville-Jacques-Cartier, où Pierre Vallière lui-même se retrouve à un moment donné. Et donc ça devient le berceau du FLQ. Alors c'est tout... parce qu'après-guerre, il y avait une crise du logement à Montréal, donc il y avait plein d'ouvriers qui allaient s'installer là, mais là-dedans, il y avait aussi des, si vous me passez le mot, des « rejects » de la colonisation de l'Abitibi qui se retrouvent là et qui finalement vont fonder c'est-à-dire vont être à l'origine de ce mouvement politique-là. Donc, ça me permettait d'inscrire toute cette histoire-là, la crise d'octobre, dans un territoire et un temps beaucoup plus large, en fait. Le Nord fait partie de ça d'une certaine façon. Le Nord fait partie de ça d'une certaine façon aussi. Le territoire mythique, en fait, du Québec, j'ai essayé d'inscrire mon livre là-dedans.
Et il y a le fil amérindien aussi à travers ça.
Oui, pas si marqué, peut-être, vous dites ça à cause du lynx?
À cause du trappeur, ouais. Il me semble qu'il y a... Mm-hmm. Oui, oui.
Mais oui, ça fait
la
pas directement...
La question totémique.
Ça fait pas directement partie. Il y a un très beau personnage d'Indien dans cette histoire-là, dans l'histoire du FLQ, en fait, Jacques Godbout a fait un film sur lui. Il s'appelle... Norman Williams. Ça. Qui est un très drôle de type qui a fait à Paris et ailleurs des choses assez bizarres. Un faux Indien qui, je pense, a semblé infiltrer pas mal de mouvements. Il était très près du FLQ quand il était au Québec. Après ça, il se retrouve avec le mouvement pacifiste en Europe. En tout cas, ça, c'est un faux Indien, par contre. Mais il y a des... alors, je suis pas d'accord quand monsieur disait c'est une histoire très circonscrite, tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé au moins 3 ou 4 romans là-dedans. Le personnage que j'ai évoqué tantôt, le colonel Desrochers, c'est un moyen personnage aussi qui mériterait son roman à lui aussi, en fait. Alors, il a fallu faire des choix. J'ai coupé ça à 600 pages, mais il a fallu faire quelques choix. Mais il y a quand même beaucoup de matériel là-dedans.
Oui. Vous, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Pour...
Juste une petite anecdote, parce que je viens de Végé-Cartier, de Longueuil. Mm-hmm. J'étais tout jeune, j'avais seulement 2 ans à l'époque. Et Michel Vigée était un ami, une connaissance de mes parents. Il est passé chez nous. Durant la crise, justement.
Ah oui?
Et les souvenirs, en fait, ce que mes parents m'ont raconté, c'est que le gars était comme une bête traquée, se brûlait avec sa cigarette en disant « ils vont pouvoir me torturer ». Mais pour revenir sur le point que vous disiez tout à l'heure, les propos qu'il tenait, c'était « il se passe des choses qu'on n'a pas faites puis qu'ils disent que c'est nous qui a faites mm-hmm. ». Puis c'est les seules paroles qui étaient restées, c'est parce qu'il était évidemment dans un état complètement…
Ah oui.
Faut imaginer, il était traqué complètement lui aussi, là. Puis il savait. Et son meurtre, c'est ce qui m'a tout de suite ouvert dans votre livre à l'importance de ce que vous avez fait comme recherche, parce que vous connaissiez son assassinat, mais ce n'est pas un fait qui est très connu. En tout cas, il n'est pas souvent raconté. Et je sais qu'il est mort.
Ben, c'est sans doute... C'est traité au moins par certaines personnes, en tout cas comme une mort suspecte. Là. Michel Vigée, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est le gars qui a caché les felkistes après la mort du ministre de leur otage. Et il a caché dans une maison à Saint-Luc, sur la Rive-Sud, jusqu'à temps qu'il se fasse arrêter au mois de décembre. C'était un militant du RIN à l'époque... Il a fait étonnamment, contrairement à d'autres qui ont été punis beaucoup moins sévèrement, ceux de l'équipe de support autour, il était condamné à 8 ans de prison, je pense, une peine assez sévère. Et quand il est sorti, il a rencontré des journalistes, tout ça. Puis en tout cas, pas longtemps après, il est mort d'une façon un peu bizarre, avec la tête écrasée par son tracteur. Je sais que son propre frère avait écrit une lettre au Devoir à l'époque et considérait que c'était une mort très suspecte. Il disait qu'il était entouré de gens qui... que lui considérait comme des espions probables. Évidemment, il faut faire la part. Monsieur parlait de paranoïa tantôt. Il y a souvent un peu de ça. Il faut faire la part de ça. Mais il reste que sa mort, de tout ce que j'en sais, a été assez étrange aussi. Alors, c'était de la famille à vous? C'est un ami de la famille, c'est ça? Ouais.
C'est une personne de Longueuil. C'est une grosse famille de Longueuil.
Oui, c'est ça.
Je suis content aussi que vous fassiez les rapports avec la tribu un peu louche de Ville-Jacques-Cartier, parce que justement, il y avait de ces gens-là qui étaient à la marge hein, de la cité de Longueuil bien pensante et ces franges très, très. Moi, je vais dire ça.
Ouais,
pas commode de Ville-Jacques-Cartier, puis lui en faisait probablement partie. Des espèces de liens entre ces
gens-là. Ouais. Il y avait les Ville-Jacques-Cartier, c'était plus les bombes un peu, mais à un moment donné, puis Longueuil, c'était les bourgeois, puis tout ça. Mais à un moment donné, ça s'est comme fusionné. Bon, c'est ça, mais... bon, c'est ça, ouais, donc, l'affaire... Il y a Marc-André Forcy, le cinéaste aussi, qui a fait... Je ne l'ai pas vu encore, mais il a fait un film sur... Ah oui?
Coteau-Rouge,
oui.
Pour dénouer, ben, pas pour dénouer, mais pour montrer cette histoire-là avec Ferron, avec les gens qui se bâtissaient les maisons en carton.
Oui, oui, c'est ça.
Il se passe des petites choses, mais finalement, malheureusement, c'est pas...
Non, mais la plus belle évocation de cette période-là de Ville-Jacques-Cartier, c'est dans Nègre blanc d'Amérique, de Pierre Vallière, où il montre vraiment tout ça, les gens qui allaient... qui travaillait à Montréal dans les usines, puis qu'après le travail, ils s'en allaient sur la rive sud, sur les terres, pour se bâtir des maisons eux-mêmes, pratiquement en carton ou en donnacona, là, qui était une espèce de matériau cheap un peu. Puis c'est vraiment intéressant, mais c'était vraiment un bidonville au départ. Maintenant, c'est la rive sud, c'est très respectable, c'est une ville dortoir, mais c'était un bidonville. Moi, je pense souvent que au Québec, on vient vraiment de loin quand même. Ça fait juste comme 2-3 générations qu'on est sorti du bois, j'ai l'impression. C'est vraiment... Puis quand on voit des choses comme ça, qu'il y avait des bidonvilles au sud de Montréal jusque dans les années 60, je pense que le terme de bidonville est même pas exagéré. Alors, ça va vite, l'histoire. Ça change vite.
Ferron appelait ça le Far West en un seul mot.
Oui, c'est ça. C'était le Far West de Ferron, oui. Ouais. Il y avait l'Abitibi aussi, puis il y avait le petit Far West proche qui était Ville-Jacques-Cartier.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Non, c'est vrai?
Patrick me fait signe. Il y a une question.
Il y a quelqu'un qui a une question là-bas.
On la prend,
ouais,
Patrick.
Ouais.
Micro.
La part des acteurs que vous avez rencontrés, tant du bord de la police que des anciens militants, quelle a été la réaction, disons, la majorité? Est-ce qu'ils ont dit « Ah non, ça se peut pas, vous êtes dans le champ » ou « C'est très intéressant » ou dans le fond, est-ce que ça a été un rejet ou une acceptation totale? Par rapport à la maison,
des acteurs, des anciens terroristes ou des anciens...
De la police que des anciens terroristes, est-ce qu'ils vous ont dit que ça se peut pas?
Dans certains cas, les gens que j'ai rencontrés, j'en étais pas encore arrivé à la formulation de cette théorie ou de cette hypothèse-là, mais... La première chose qui m'a branché là-dessus, en fait, c'est quand une des premières personnes à qui j'ai parlé, c'est un policier antiterroriste de l'époque qui est mort maintenant et qui, lui, je savais par Jacques Ferron que Ferron avait souligné à l'époque que son petit cousin à lui, cet homme-là, Monsieur Massé, était le fameux livreur de poulets de Larry Armstrong, parce que le poulet, c'est très important dans la crise d'octobre. Le poulet, ça fait partie du folklore, le poulet frit, rôti peut-être, ça fait partie du folklore incontournable, la crise d'octobre. Et donc, Ferron trouvait ça bizarre, et moi, j'avais posé la question à ce policier-là que j'avais réussi à retracer. Il a dit, est-ce vrai ça que votre petit cousin était, c'est lui qui est allé livrer du poulet? Et à ma grande surprise, plutôt que de dire tout simplement, ben non, c'est des histoires, il y a eu un gros silence, puis après ça, il s'est mis à me raconter une histoire qui tenait à peine debout quand j'y ai repensé après ça. Il m'a dit que 5 jours avant l'enlèvement de Pierre Laporte, lui, cet homme-là, c'est lui qui avait arrêté les gens du mois de juin dans un chalet au nord de Montréal. Je parlais de ça tantôt, ceux qui ont été bostés dans un chalet de Prévost. C'est lui qui avait fait ça. Donc, je vais essayer de ne pas vous amener trop loin, mais... Le 5 octobre, lui, était en cours et c'est là que, par hasard, il aurait retrouvé son cousin qu'il n'avait pas vu depuis longtemps par le plus grand hasard. Alors, moi, j'ai demandé, donc, ce gars-là, il assistait à un procès de Felkiste et 5 jours plus tard, par hasard, c'est lui qui est allé livrer du poulet à Paul Rose et à ses chums. Là, il m'a dit, ouais, c'est ça, tu t'appelleras... Puis, il m'a dit quelque chose d'encore plus étonnant. Il a dit, appelle Robert Lemieux à cette île, l'avocat de l'époque des Felkis. Il a dit, c'est mon témoin. On lui dit, un témoin. Vous avez dit quoi cette histoire-là? Un témoin. Bref, ça a commencé comme ça, l'affaire de la maison puis de la maison voisine, tout ça. La première chose que j'ai vraiment trouvée étrange et que j'ai trouvée qui clochait, c'était ça. Honnêtement, là, j'en suis venu dans mon interprétation des faits à l'idée que ce livreur de poulet était un policier en civil, en fait, parce que c'était une tactique très répandue. Quand on avait repéré un repère de terroriste comme ça, on envoyait des faux livreurs de pizza, des chauffeurs de taxi qui s'étaient trompés d'adresse, tout ça, pour essayer de se faire une idée des lieux, tout ça. Et moi, je pense que c'était ça, en fait. Mais ça, en soi, comme tel, ce serait pas suffisant pour asseoir toute une hypothèse là-dessus, mais j'avais d'autres soupçons qui sont venus se joindre à tout ça. Et finalement, j'ai rencontré plusieurs fois le premier policier qui a rentré dans la maison le 19 octobre au matin quand ils l'ont trouvé. Et lui, malgré le fait que je l'ai vraiment travaillé, c'est un gros... c'est un espèce de bœuf physiquement. Et j'ai jamais réussi vraiment à y faire admettre ça, à mon grand regret, mais à certains moments, il m'a laissé entendre des choses comme, par exemple, que la police, il avait l'air de savoir très bien tout ce qui s'était passé cette semaine-là. Puis le précédent flic, Massé, m'avait donné la même impression, c'est-à-dire qu'il semblait très, très au courant de la manière exacte dont les choses s'étaient passées. Mais lui, j'ai jamais réussi à y faire admettre cette chose. J'ai parlé à un ancien de la GRC aussi qui m'a dit en gros que j'avais raison, mais sans entrer dans les détails. C'est pas facile d'avoir des aveux fermes de ces gens-là. Pourquoi? Ben, on pourrait offrir plusieurs solutions. Là. Celui de la GRC à qui j'ai parlé, il se considérait encore, malgré qu'il avait démissionné en 70 parce qu'il était nationaliste et qu'il avait démissionné en 70 après la crise d'octobre, il se considérait encore lié par son serment à la reine comme officier de la GRC. Alors, c'est ça. Il y a des choses comme ça. Oui, est-ce qu'on a le temps?
Si Patrick nous met pas dehors.
La Maison du Pêcheur, c'est en quelle année exactement la Maison du Pêcheur avec les frères Rose?
En 69, qui arrive là, été 69, et ouais.
OK, j'ai lu là-dessus, je me suis fait une idée, je ne sais pas, est-ce que l'idée que je me suis faite, je ne sais pas si c'est à partir de ce que j'ai lu objectivement, mais que ce serait le déclencheur dans le sens où il y a eu un échec, là, que si ça avait marché la Maison du Pêcheur, bon, c'est quand même quelque chose d'assez... Ils vont faire un film, d'ailleurs, bientôt là-dessus.
Oui, il paraît, oui.
On va faire un film. Et est-ce que c'est pas le déclencheur? Parce que moi, c'est le mécanisme de la violence qui me trouble beaucoup là-dedans. Là. Comment il y a eu des bombes quand même avant, là. Mais est-ce que la Maison du Pêcheur, cet échec-là, ne serait pas un déclencheur des événements d'octobre?
Je sais pas si l'échec est un déclencheur, mais je sais que c'est un... C'est le lieu de la radicalisation, d'une certaine radicalisation de la bande Paul Rose et compagnie. Mais le réseau qui a commis des enlèvements à l'automne 70, au départ, c'est la rencontre de Rose et Lanctôt en 68 à la fameuse manif de la Matraque, là, la manif de la Saint-Jean. Mais après ça, donc, ils ont déjà commencé à constituer un réseau. Mais après ça, en 69, ils décident de prendre un break et ils s'en vont à Percé, puis là, d'ouvrir une cabane de pêcheurs. Et là, en principe, ils font rien d'illégal. Mais effectivement, le harcèlement des autorités qui leur reprochaient de pas avoir assez d'argent, de pas faire fonctionner le tourisme aussi bien que le commerce local, aussi bien que les touristes américains, par exemple. Et donc, tout ce harcèlement-là, auxquels eux ont riposté. Il y a toute une saga de la Maison du Pêcheur. Ça va sûrement faire un très bon documentaire ou un film de fiction, je ne sais pas. Mais oui, il y a une radicalisation, je pense, qui vient de là, entre autres chez Paul Rose, là, qui se retrouve en prison à un moment donné et qui rencontre Jacques Mesrine, le futur ennemi numéro un de la France, qui était à Percé à ce moment-là pour une histoire de meurtre. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une radicalisation qui vient de la Maison du Pêcheur, tout à fait, ouais. Et il y en a de la gang qui sont retournés en 70. À un moment donné, en septembre 70, la maison a passé au feu dans un drôle d'incendie pas trop bien expliqué par l'histoire. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'il y a vraiment... et quand je parle bon, de surveillance, la saga de la Maison du Pêcheur, ça a été... je pense que tout le Québec a suivi ça. En tout cas, dans la presse, la presse avait envoyé un correspondant sur place à Percé pendant le mois de juillet de 1969, à peu près au même moment où des cosmonautes se rapprochaient de la Lune, là, le Armstrong et compagnie. Ça a été suivi par tout le Québec. Là, et ces gars-là déjà sont passés dans le radar de la police, c'est-à-dire que il y a une chose qui est absolument certaine aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de policiers en civil qui allaient faire un tour à Maison du Pêcheur. Et c'était connu comme un foyer de radicaux extrêmement qui devenait de plus en plus important. Et à partir de là, dès ce moment-là, la police antiterroristes et la police, le service de sécurité de la GRC, tout ça, se mettent à s'intéresser à ces gens-là de très près. Et puis donc, il n'y a pas juste la radicalisation politique qui vient de là, il y a aussi déjà l'intérêt des policiers pour ces jeunes gens.
Patrick me fait signe, je crois qu'il va falloir s'arrêter, on pourrait continuer longtemps. Alors je voudrais en votre nom à tous remercier très chaleureusement Louis Hamelin de la générosité de sa lecture.
Merci. Merci beaucoup.
Voilà. Merci. Et merci à vous.
Merci. Ben, merci.